Intervention de Laetitia De Witt, historienne, auteure d'une biographie consacrée à l'aiglon et publiée chez Talonlier. Laetitia De Witt qui va nous parler de l'aiglon et de sa vie à la fois tragique et romantique.
Merci, je vais faire comme mon prédécesseur, pas être très original et remercier la ville de Sartène et les organisateurs, à commencer par Bertrand d'Ortelie qui a eu la gentillesse en plus de venir me chercher à l'aéroport d'Ajaccio tout à l'heure. Je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir, j'ai des attaches corses à Sartène en plus, donc c'est très émouvant. Moi je ne vais pas du tout vous parler d'institutions, ça va être un autre aspect de Napoléon et l'héritage, puisqu'on va évoquer son héritier, l'aiglon, le petit roi de Rome, un destin tragique. Il va vivre 21 ans, il meurt donc en 1832. Je ne vais pas vous retracer pas à pas sa vie, même si ça pourrait être assez bref, puisqu'il meurt à 21 ans, mais je vais me concentrer sur d'abord ces trois années d'héritier impérial, et après de voir combien il a continué à compter pour Napoléon, même après l'Empire, quand Napoléon était à Sainte-Hélène, et essayer de voir ce que lui, en grandissant, retiendra de l'héritage impérial et s'il avait quelques traits hérités de son père Napoléon. Donc, il faut bien voir que pour Napoléon, la question de la pérennisation de son pouvoir est essentielle pour lui. À partir du moment où il établit l'Empire en 1804, un système héréditaire, il lui faut un héritier. Cet héritier, il va tarder à l'avoir, puisqu'il faut d'abord qu'il divorce de Joséphine, chose très délicate pour lui, et il va s'y résoudre en 1809, et à partir de ce moment-là, tout va aller très vite. Il se sépare de Joséphine, épouse quelques mois plus tard Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur d'Autriche, et tout semble sourire à Napoléon, puisque de cette union naît quelques mois plus tard le roi de Rome, le fils tant attendu. Avant même la naissance de son fils, Napoléon va vraiment prévoir chaque détail le concernant et entre autres va tout organiser, c'était un organisateur comme vous le savez, et va s'intéresser à chaque détail en effet, et comme il voulait en faire un successeur et son successeur, il va beaucoup s'appuyer sur les rites de l'ancien régime pour cet héritier impérial. Tout comme il l'avait fait d'ailleurs pour son mariage avec Marie-Louise, puisqu'il avait repris pas à pas le cérémonial de ce qui avait eu lieu entre Louis XVI et Marie-Antoinette. Pour l'avenue au monde du petit roi de Rome, ça va être la même chose. Il va d'abord s'intéresser à la création d'une maison des enfants de France, qui est la résurgence d'une institution de cour et qui est une institution très importante au sein de la cour. Donc c'est en quelque sorte, ça pourrait être comparé à ce qu'est un ministère aujourd'hui. Il y a une gouvernante qui en assume la direction. Le choix de la gouvernante va être quelque chose de très important pour Napoléon. Il va choisir la comtesse de Montesquiou, qui est une femme issue de la haute aristocratie, elle-même mère de 5 enfants, très intéressée aux questions d'éducation. Entre autres, elle avait suivi les préceptes de Madame de Genlis, qui était la gouvernante du futur Louis-Philippe. Donc assez avant-gardiste sur les questions d'éducation. Elle va mettre d'ailleurs en place pour le roi de Rome tout un programme éducatif très avancé, entre autres pour l'apprentissage de l'écriture. Donc il y a cette constitution des enfants de France, mais c'est aussi amusant de voir un Napoléon qui s'intéresse au choix des layettes de l'enfant, au mobilier qui va être dans ses appartements, aux couleurs qui vont habiller les murs de ses appartements. Chaque détail est vraiment suivi par l'empereur jusque donc au jour de la naissance, qui a lieu le 20 mars 1811 aux Tuileries. Le cérémonial prévu est engagé. Donc c'est d'abord un endoiement, comme c'est la tradition sous l'Ancien Régime. Et après, il y a un grand baptême extrêmement fastueux qui aura lieu à Notre-Dame au mois de juin 1811. Toute cette pompe vise vraiment à camper l'enfant dans son statut d'héritier. Les artistes sont également invités, auprès du berceau de l'enfant. Tous les plus grands artistes de l'Empire vont me représenter, dont le peintre Gérard, célèbre portraitiste de l'Empire, va représenter le roi de Rome à peine âgé d'un an. Et tous les artistes vont à chaque fois essayer de forcer le trait de sa ressemblance avec l'empereur. Et il est aussi souvent représenté avec tous les symboles du pouvoir impérial, le grand carton de la Légion d'honneur pour un petit bébé. C'est ce petit roi de Rome qui contente pleinement son père et est aussi un outil de propagande très important pour Napoléon, puisqu'il faut d'une part le camper en successeur, mais Napoléon, excellent communicant, comme vous le savez, comprend aussi qu'à l'heure où il va devoir très vite à nouveau lever des hommes pour repartir en guerre, ça peut lui être utile de diffuser l'image du bon père de famille. Donc il va être, les artistes vont beaucoup reprendre des scènes de la vie quotidienne de l'empereur avec son fils. On le voit donnant à manger à son fils, représentant, jouant avec des soldats de plomb avec son fils. Ce qui est assez original, peu de monarques, même aucun monarque jusqu'à présent, s'était fait représenter comme ça dans les scènes de la vie quotidienne. Tous ces efforts de l'empereur pour installer son fils en tant que successeur vont finalement peu porter leurs fruits, puisque sous l'Empire déjà, alors que le petit roi a un an et demi, Napoléon donc repart en campagne, part en Russie. Et lors de la campagne de Russie, il y a un obscur général qui va tenter un coup d'État contre l'Empire. Et en quelques heures, il arrive, en présentant un faux senatus consulte, à faire croire à la mort de Napoléon et à presque renverser le régime impérial. Et il se rend auprès du ministre de l'Intérieur, du chef de la police secrète, du préfet de police. Et aucun de ces hommes haut placés ne pense à Napoléon II. Donc là, Napoléon est absolument furieux. Va essayer d'attirer à nouveau l'attention sur son fils, va prévoir un sacre à Reims. Il n'aura pas le temps de mettre tout ça en place. Il va aussi confier au petit roi, qui est donc encore très jeune, un espèce de rôle de représentation. On lui fait faire des uniformes, on l'exhibe, il est promené au milieu des Français, enfin des Parisiens. On lui fait passer des régiments en revue. Tout ça vraiment pour l'installer en successeur. Et en 1814, lorsque Napoléon repart pour la campagne de France et va devoir quitter son trône, l'élan dynastique n'aura pas fonctionné. Ça sera une des grandes frustrations de Napoléon. Le petit roi de ces années françaises va garder quand même un espèce de culte à sa personne et qui va être important pour la construction de sa personnalité après, puisque donc l'Empire s'écroule en 1814. Le roi de Rome va suivre sa mère à Rome, et là, à Vienne, pardon, à Vienne, chez son grand-père l'empereur d'Autriche. Et là d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. On a beaucoup reproché à Marie-Louise d'avoir suivi son père en Autriche en 1814 et de ne pas avoir cherché à rejoindre Napoléon à Fontainebleau et après l'avoir suivi à l'île d'Elbe. Et Marie-Louise est jeune à ce moment-là, elle a 19, à peine 20 ans. Elle est quand même très sous la coupe de son mari et ses choix, elle les fait avec Napoléon, puisque à partir du moment où lui perd sa couronne, il a toujours été impressionné par le fait que Marie-Louise soit une archiduchesse d'Autriche. Il se dit qu'il n'a plus rien à offrir à son épouse et surtout à leur fils. Il a perdu l'héritage de son fils. Et là, il va s'en remettre entièrement à Marie-Louise pour qu'elle essaie de convaincre l'empereur d'Autriche de sauver la couronne de France, s'il ne peut la sauver, non, mais au moins qu'il lui trouve un trône en Europe. Il est persuadé que l'empereur d'Autriche ne pourra pas refuser à sa fille un trône. Il n'a pas complètement tort, puisque finalement les alliés vont accorder à Marie-Louise le duché de Parme, qui dans un premier temps sera héréditaire. Elle va essayer que son fils puisse en hériter, et finalement tout va être bouleversé après par le retour de l'île d'Elbe, puisque donc Marie-Louise et le roi de Rome partent à Vienne. Et là, c'est un, je dirais que dans un premier temps, pour le roi de Rome, qui n'est plus roi de Rome, la vie ne va pas trop changer. Il est avec son entourage français. Et là, c'est une chose importante. Il est entouré donc de sa gouvernante, de sa berceuse, enfin de tout un personnel français qui fait qu'on va maintenir, il est servi, on va maintenir son rythme de vie à Paris par les repas, par tout le cérémonial autour de lui. Et donc, dans un premier temps, son changement ne va pas être majeur. Et surtout, les Françaises de son entourage vont s'attacher à lui rappeler son passé de roi de Rome, à lui rappeler son importance, entre guillemets, et à lui faire revivre tous les souvenirs qu'il a vécus avec son père, à rendre très présent son père. Ça, c'est, je dirais, pendant les quelques années jusqu'à 1815. Puis donc vient les 100 jours. Napoléon quitte l'île d'Elbe, arrive, je ne sais pas si c'était une ironie du sort, mais a fait son entrée aux Tuileries le 20 mars 1814, donc jour des 3 ans de son fils. Malheureusement, il n'aura pas son fils à ses côtés, puisqu'il est retenu à la cour de Vienne. Et l'épisode des 100 jours va avoir des conséquences tragiques pour le fils de Napoléon, puisque là, le gouvernement autrichien va craindre qu'il soit enlevé pour être amené à Paris. Et à partir de là, la surveillance va être extrêmement renforcée autour de lui. On va craindre qu'il puisse un jour avoir une couronne en Europe. Donc son sort va être quelque part un peu brisé. Et on va du jour au lendemain renvoyer tout son entourage français et décider de l'éduquer comme un prince autrichien. Donc, c'est un gouverneur essentiellement qui va superviser son éducation pendant toute sa vie à Vienne, le comte Maurice de Dietrichstein, qui s'avère un excellent gouverneur par certains côtés et moins par d'autres, puisque pas du tout préparé à cette tâche et assez peu sensible. Bref, l'éducation, dans un premier temps, on va chercher vraiment à ce qu'il apprenne l'allemand, à ce qu'il oublie son passé de français. Alors, il a été beaucoup dit qu'il avait été retenu prisonnier à Vienne, et voire maltraité. Alors, il n'a pas du tout été maltraité. Il est vraiment intégré à la cour d'Autriche, même si pendant quelques années, il n'a pas de nom et que personne ne sait comment l'appeler. Il pose un problème. Il a un statut un peu à part. Mais il reçoit une éducation vraiment de grande qualité. C'est un enfant vif, intelligent, qui, lorsqu'on lui enseigne les matières qui l'intéressent, a de réelles dispositions. Alors, ça va être essentiellement dans les sciences militaires, les sciences politiques et l'histoire. Est-ce que c'est un héritage paternel, justement, peut-être ? Donc bref, le temps passe, cet enfant grandit, bien élevé à la cour d'Autriche, jusque, je dirais, en 1821, date de la mort de Napoléon. Et là, c'est intéressant de voir que... Donc il apprend la mort de son père, ça va complètement bouleverser sa vie. Il est très très ému par cette nouvelle. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, Napoléon, sur son rocher à Sainte-Hélène, a toujours pensé à son fils. Lorsqu'il embarque avec ses compagnons et Lascaz, à ses côtés, qui assume les fonctions de secrétaire, il commence déjà à dicter ses mémoires. Il les dicte dans deux buts. Un but justificateur, de se faire passer pour un monarque libéral, mais aussi dans le but, je pense, de transmettre justement à son fils, puisqu'il se dit qu'il lui interdit donc de s'adresser directement à lui. Il se dit qu'il est important que son fils connaisse son œuvre, et comment pourrait-il le faire au-delà de ses écrits. Donc une des missions du mémorial de Sainte-Hélène va être aussi de dire à son fils, raconter son histoire à son fils. Il se présente donc comme un monarque libéral, héritier de la Révolution. donc un monarque oui, libéral, héritier de la Révolution. Et puisqu'il il a beau être isolé sur son rocher de Sainte-Hélène, il prévoit quand même la chute des Bourbons. Et il est persuadé que viendra alors l'heure de Napoléon II, puisque qui d'autre que Napoléon II pourra succéder aux Bourbons, vieille dynastie incapable d'assumer la continuité après la Révolution. Et donc ça sera à Napoléon II de le faire. On dit que juste avant de s'éteindre, Napoléon portera son dernier regard sur un buste du petit roi de Rome qui était sur sa cheminée. Vraiment, jusqu'au bout, lorsqu'il dicte son testament, et son fils y est très présent, et il est intéressant de voir qu'à son fils, il ne destine pas ni d'argent, ce qu'il veut transmettre à son fils. D'abord, sont des recommandations de ne jamais oublier qu'il est prince français, puisqu'il prévoit déjà la germanisation de son fils. Et aussi, il veut lui transmettre les objets les plus significatifs de son épopée, des sabres, des objets personnels. Il dit « ma gloire, mes souvenirs feront sa gloire », dit-il. Ces objets, malheureusement, ne parviendront jamais jusqu'à celui qui sera titré donc, par l'Autriche duc de Reichstadt. Mais il est intéressant de voir que si le père pensait constamment à son fils, il en est né de même du fils qui, toute sa vie, va être omnibulé par son père. Et en grandissant, son gouverneur va apprécier de plus en plus les qualités du jeune homme et va s'apercevoir qu'il est important qu'il connaisse bien l'histoire de son père. Donc on va lui donner accès à toute la littérature issue de Sainte-Hélène. Il va découvrir le mémorial et il va en être absolument bouleversé. Bouleversé puisqu'il va s'apercevoir que son père pensait à lui. Et surtout, il grandit à la cour d'Autriche sans avoir vraiment de projet. On ne sait pas quoi faire de lui. À un moment, la France avait fait pression sur l'Autriche pour qu'il devienne, qu'il devienne ecclésiastique. L'Autriche s'y oppose, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Metternich ne veut pas lui accorder de rôle politique. Donc on lui destine une carrière militaire, mais je dirais un peu dans l'ombre. Et là, le duc de Reichstag découvre qu'au contraire, son père, lui, croit en lui et avait même formé pour lui l'espoir qu'il retrouve le trône de France. Ces recommandations vont avoir un double effet, elles vont le troubler. Il va se trouver pas forcément à la hauteur de l'héritage impérial. Il va découvrir une autre figure de son père qu'il ne connaissait pas, puisqu'on lui avait toujours présenté son père comme un ogre qui avait été le tyran corse, excellent stratège, mais qui avait été aveuglé par son ambition. Et donc là, il se demande comment il va pouvoir assumer cet héritage. Et ça va développer chez lui une espèce de mélancolie qui, peu à peu, va le ronger de l'intérieur. Il a pourtant certains traits de caractère, je pense, très en commun avec son père. Le médecin qui l'a suivi les trois dernières années de sa vie, surtout la dernière année de sa vie, donc où il était atteint de la tuberculose, parle de lui comme d'une âme de fer dans un corps de cristal. C'est un jeune homme qui avait une volonté hors du commun, je pense, comme son père. Il a eu une brève carrière militaire et tous ceux qui l'ont approché dans ce contexte ont été impressionnés par ses capacités de commandement et de stratégie. J'ai eu accès à son dossier militaire aux archives de la guerre à Vienne où on montre où les appréciations de ses supérieurs étaient excellentes. Alors physiquement, il avait l'air plus du côté de sa mère, puisque c'est un assez grand jeune homme blond, mélancolique, sans doute, tout comme sa mère. Et finalement, autant Napoléon a été un homme d'action, autant son fils a été rongé par l'inaction. Donc voilà, alors Napoléon a voulu avoir un héritier, tout semblait lui sourire, et finalement l'histoire se termine mal, même si quelque part la légende du fils vient vraiment nourrir la légende du père. Il y a le père qui est mort sur son rocher de Sainte-Hélène, prisonnier des Anglais, et le fils qui va mourir aux mains des Autrichiens, pas prisonnier, mais loin de son pays. De là, une magnifique légende qui va inspirer par la suite Victor Hugo, qui va lui donner le surnom d'Aiglon, puis Edmond Rostand, tellement ce personnage qui deviendra assez populaire, l'Aiglon, alors qu'il n'est plus trop aujourd'hui, si populaire qu'un dernier épisode se rattache à sa fin un peu tragique, en 1940, en pleine collaboration entre la France et l'Allemagne. Hitler va vouloir faire un geste vis-à-vis de la France et va ordonner le retour de ses cendres aux Invalides le jour du 100e anniversaire du retour des cendres de Napoléon Ier. Donc, épisode un peu sinistre. Et sur les murs de Paris, sont affichés les Allemands nous rendent des cendres, nous aurions proféré du charbon. Mais dernier épisode un peu sinistre qui permet de faire peut-être une transition avec Jacques-Olivier Boudon, qui maintenant va vous parler des commémorations, et donc dont les dernières se sont passées aux Invalides.